RCN. Écoutez le monde qui bouge.
Il était une fois, l'émission qui parle des comédiens et comédiennes, leur vie, leur histoire, leur filmographie, leur carrière.
Moteur.
Thierry Genovese décrypte tout, chaque mercredi à 19h, sur RCN.
Cher public, bonsoir. Nous commençons ce nouveau chapitre. Nous parlons d'un nouveau film, La Corde Raide, ou Tightrope en anglais, et du prochain Kansas City Jazz, qui va devenir Haut les Flingues. Tightrope, ou La Corde Raide, est un scénario de Richard Tuggle, l'histoire d'un violeur qui sévissait dans la ville de San Francisco. Tuggle a déjà écrit pour Clint dans L'évadé d'Alcatraz. Il présenta le scénario à Siegel tout en laissant la primeur à Clint pour être la star du film. Mais Siegel n'est pas intéressé car il sait évidemment que Clint voudra réaliser. Comme le dernier Harry a déjà été tourné dans la ville de San Francisco, on propose de le tourner à la Nouvelle-Orléans, un cadre magnifique, et puis on change de ville, pourquoi pas. Le changement de ville donne lieu à une crise d'âge mûr que traverse Clint, un détective tout juste divorcé nommé West Block. La nuit, c'est un homme qui cherche le réconfort dans le sexe anonyme et ne boit pas que de l'eau. Il enquête sur une série de meurtres de stripteaseuses et de prostituées. Il tente de rentrer dans la tête du tueur et développe une sorte de fascination pour le sadomasochisme. Le tueur connaît Block et il a toujours un temps d'avance sur lui. Le script, qui faisait évoluer le voyeurisme et en plus du reste plaisait à Clint, qui ne s'était jamais caché qu'il filmait de temps à autre ses ébats amoureux en privé. Et en plus ne se faisait pas prier pour raconter aux copains dans ses réunions salaces. Clint pensait aussi faire jouer la fille Allison dans un rôle. Le premier rôle féminin est proposé à Jane Fonda, mais Clint n'était pas d'accord car, d'après son producteur Mainz, il avait peur de se faire voler la vedette. On propose à Susan Sarandon, mais elle trouve le film trop violent. On parle de Meryl Streep, mais au final, on prend une certaine Patty Clarkson qui jouera après dans La Dernière Cible. Mais au final, on lui choisira Geneviève Bujold. Cette actrice qui vient de Montréal, elle vient d'être nominée aux Oscars pour le film Anne des Mille Jours. Malpasso avait depuis longtemps lorgné sur la belle brune. Clint aimait les femmes qui avaient du charisme, on sait pourquoi. Geneviève Bujold rencontra Clint, ils étaient émus tous les deux et il lui demanda si le script lui plaisait, elle répondit oui. Ce fut Richard Tuggle qui réalisa le film, il demanda à Clint s'il voulait modifier quelques dialogues dans le scénario, mais pour une fois, il répondit que non, la première version fut adoptée. Le chef opérateur, c'est toujours Bruce Curtis, qui donnera un aspect noir-bleu breveté du film. Buddy Van Horn est encore le coordinateur de cascade pour les scènes d'action. Nios va s'occuper de la bande originale, car Jerry Fielding, qui était aux commandes depuis le film, l'inspecteur ne renonce jamais, est décédé. Et Nios reprend le flambeau de Fielding, et Joel Cox est le nouveau monteur. Ces deux prestataires vont travailler pendant 20 ans pour Malpasso Productions. Le tournage à l'automne 1983 et le producteur Maine se prend de plus en plus le bec avec Clint. Ils en arrivent des fois limite aux mains. Clint, en même temps, entame une relation avec l'actrice Jamie Rose de la série Falcon Crest qui jouait dans un petit rôle de prostituée assassinée dans La Corde Raide. Petite anecdote d'un film à caractère sinistre et sexuel. Clint s'aperçoit hors champ que le réalisateur, qui est monté sur un escabeau, a ses parties génitales qui sortent de son short. Outré, Clint exige au réalisateur d'aller mettre un slip dans sa caravane. Quelle honte pour sa fille Allison de voir ce tableau qui semble si choquant. Par contre, Tuggle n'oubliera jamais le savoir-faire de Clint, qui était soi-disant un tyran avec tous les autres réalisateurs qu'il tournait. Tuggle disait qu'il avait beaucoup aimé travailler avec lui, car très intelligent dans ses propositions, accessible et ouvert, tout l'inverse de ce que les gens pouvaient dire, des jaloux sûrement qui se sentaient inférieurs dès qu'on leur proposait une idée qui les dépassait. Ce film ne fit pas l'unanimité, les touches sexuelles mises dans le film n'ont pas fait tilt, on trouve les scènes sexuelles insipides. De gros plans sur des seins et des fesses, La Corde Raide ne fut pas un film à caractère très sexy. Mais sur le long terme, le film dépassa quand même la recette de l'épreuve de force, soit 60 millions de dollars, qui reste un film vide de sens pour toute la presse. Vous allez entendre la bande originale du film La Corde Raide, sortie en 1984. Les tensions qui avaient régné sur le tournage de La Corde Raide furent dues aux préparatifs du prochain film de Clint au nom de Kansas City Jazz, dans lequel il devait donner la réplique à Burt Reynolds et dirigé par Black Edward, réalisateur expérimenté s'il en est. La longue série des Panthères Roses, la comédie musicale Elle et bien d'autres succès. Le script était écrit par Black Edward, il mêlait action et comédie. Les deux personnages principaux, un détective et son associé, qui se retrouvent au milieu d'un gang de Kansas City des années 30. Quand Burt Reynolds lut le script, il fut enchanté de tourner avec Clint. On n'a jamais vraiment su leur lien d'amitié, ils ne s'étaient jamais vus l'un chez l'autre, mais ils avaient partagé des rencontres au niveau des castings, se croisaient souvent lors des soirées et échangeaient des scripts et des conseils professionnels. C'est Sandra Locke qui fit l'intermédiaire pour le film et organisa une rencontre avec le réalisateur et avec Reynolds. Il lui promit un rôle féminin, mais quand Clint accepta de jouer dans le film, le réalisateur effaça le nom de la comédienne à la liste des acteurs. Clint eut-il une influence sur ce choix ? Quoi qu'il en soit, Clint refusa d'intervenir en faveur de Locke. Il s'agissait sans doute d'un mauvais présage car c'était la première fois qu'il écartait l'actrice de l'un de ses films. Dans ces moments perdus, Edwards téléphonait à Clint pour lui raconter le retard que le film prenait et Clint de sortir de sa caravane et de le traiter de connard. Clint avait l'habitude de travailler vite et de ne pas perdre de temps. L'affaire est conclue en juillet 1983. Les rivalités entre les deux acteurs grandissaient et ils désiraient que leur rôle soit développé équitablement et se reprochaient l'un l'autre responsable du retard que prenait le projet. Reynolds s'entendait comme larron en foire avec le réalisateur. Clint n'aimait pas trop le réalisateur qui prenait ses aises et il sentait l'homme trop lent, ce qui augurait un tournage trop fastidieux. En fait, Clint ne s'était pas trompé, le réalisateur se prend de bec avec le producteur Tony Adams et le projet fut abandonné par celui-ci. Des excuses qui fusent sur les préparatifs, mais ce n'est qu'une question d'ego entre les deux hommes. Clint se disputa violemment avec Edwards et la Warner fut le dindon de la farce car l'argent dépensé sur la préparation était perdu. Reynolds expliquera plus tard que Clint voulait se débarrasser du réalisateur pour embaucher un autre réalisateur qui venait de tourner un film avec Sean Penn. En fait, Fritz Mainz est nommé producteur, on confia la direction artistique à Edward Carfagno et la musique à Lenny Nios. Et on changea le titre du film d'abord au nom de City Heat ou Haut les flingues qui restera la touche finale de Clint. Vous allez entendre la bande originale du film Haut les flingues composée par Lenny Nios et interprétée par Al Jarreau en 1983.
I found a $1 million baby in a 5 and 10 cent store. The rain continued for an hour.
hung around for three or four, around a million-dollar baby in a five-and-ten-cent store. She was selling china, and when she made those eyes, I kept buying china until the crowd got wise. Incidentally, if you should run into a shower, just step inside my cottage door and meet the million-dollar baby from the 5 and 10 cent store.
Clint avait réussi à prendre en charge le film avec Malpasso Productions. Burt Reynolds s'en était inquiété. Il demanda de faire embaucher son chef opérateur, ce qui fut accepté en échange de Bruce Surtees, le chef opérateur habituel de Malpasso. Reynolds ne tarda pas à comprendre qu'il était cerné par l'équipe de Malpasso, fait difficile à accepter car Reynolds était dans la phase ascendante de sa carrière. Le casting est fait, on prend les rôles secondaires et on démarre en mai 1983. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Clint avait désigné Benjamin comme réalisateur, parce qu'il craignait Clint. Reynolds raconta qu'à chaque fois que Benjamin voulait recommencer une scène, Clint le coupait au milieu de sa demande et secouait la tête en lui faisant comprendre de continuer. Des complications se font sentir pour Reynolds, ce fut la cascade d'ennuis. Il eut des coliques néphrétiques et des problèmes d'oreille interne. Il eut la mâchoire fracturée par un cascadeur qui avait appuyé son geste et prit une vraie chaise en lui cassant sur le visage. Il eut aussi des problèmes avec une amie comédienne de Reynolds qui venait d'Europe. Elle avait été malade et fut remplacée sur le champ par une autre. Malgré des scènes qui furent mémorables et que le réalisateur avait su en faire un bon melting pot, le film ne produira pas l'effet escompté, le design du film n'était pas mis en valeur, le talent des acteurs secondaires n'était pas exploité et les intrigues finirent par donner une histoire difficile à suivre. Les ajouts de Clint qui devaient être burlesques manquèrent de jus. Le film fut sauvé par l'attraction des deux stars. Il rapporta quand même la somme de 50 millions de dollars après sa sortie fin 1984. Cependant, compte tenu des salaires des deux stars, on peut dire que le film fut un fiasco énorme. Pour le réalisateur Black Edwards, il reçut 3 millions de dollars de dédommagement, comme stipulé dans son contrat. Son nom n'apparut pas au générique, mais partagea le mérite de l'écriture du script avec l'autre scénariste, Joseph Stinson. Edwards expliqua qu'il avait failli avoir une crise cardiaque, il ne s'en est jamais remis, et avec le recul, il avait raison, Clint avait été vraiment une mauvaise rencontre. En plus, Clint était considéré comme un réalisateur modeste, quand on voit à son époque les réalisateurs comme Martin Scorsese, Steven Spielberg, Woody Allen, Ford Coppola, Sidney Lumet et John Cassavetes. On peut dire que Clint était le petit poussé de tous ces réalisateurs. Le seul film qui avait dépassé la notoriété artistique de Clint était le film Bird, qui obtint la 9e place en 1988. Vous allez entendre justement la bande originale de Bird, composée par Lenny Neos en 1987. Thank you. La Warner concentre surtout les critiques de Clint sur son œuvre complète pour que l'on oublie le film cas par cas. Les moindres faits et gestes de la star pouvaient être présentés comme des risques artistiques par rapport aux paramètres d'espérance limités. Sur ce, on envoie Clint en 1985 pour la promotion de son film « Holy Flingue » en Europe afin de colporter une nouvelle image d'acteur et de réalisateur chevronné. Clint sera promu au rang en France de chevalier des arts et des lettres, non pas par Jacques Lang, qui refusa vu les tendances à droite de Clint, mais ce sera Leonard Hirschman, son homme d'affaires, qui lui remettra devant un public français. Il fera une tournée à Munich en Allemagne et finira à Londres. Cette rétrospective européenne allait donner surtout un coup de pouce vis-à-vis du public qui ne s'était pas toujours laissé griser par les films de Clint. Ceux qui ne s'étaient pas encore rendu compte des talents de Clint se seraient à la longue aperçu que leur jugement rétroactif sur la carrière honorable de la star, voire leur enthousiasme actuel pour des films qui les avaient à l'origine dégoûtés. Le mauvais souvenir de Holy Flingue fut rapidement oublié en laissant place à un nouveau western qui était en projet au nom de Pale Rider ou Le Cavalier Solitaire, un western à caractère moderne, un western artistique dans lequel il incarnerait un étranger typique similaire au personnage qui défend les pionniers dans la classique de 1953. Vous allez entendre justement la bande originale de Pale Rider, composée par Lenny Nehos en 1984. Cher public, la semaine prochaine, on revient pour la suite de la carrière de M. Clint Eastwood et on continue à vous parler de ces anecdotes sulfureuses à chaque fois. N'oubliez pas d'aller écouter en podcast l'émission si vous l'avez prise en cours. Merci et très belle semaine.
Il était une fois... L'émission qui parle des comédiens et comédiennes, leur vie, leur histoire, leur filmographie, leur carrière.
Moteur.
Thierry Genovese décrypte tout, chaque mercredi à 19h, sur RCN. Retrouvez ce moment en podcast replay sur rcnradio.info et sur vos smartphones.